With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Minute Papillon.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on prend de la hauteur, on parle de liberté avec Peggy Havé, agrégée et docteur en philosophie. Dans quel monde a-t-on basculé avec la pandémie de Covid-19 ? En moins de 6 mois, nos sociétés, nos libertés, nos liens, nos métiers ont été bouleversés par le coronavirus. Et si la France poursuit son déconfinement progressif, pas sûr que ça chamboule notre quotidien. C'est pourquoi dans cette drôle de période, 20 minutes podcast vous propose le jeudi une pause philo dans votre canapé pour prendre du recul par rapport à ces événements extraordinaires. Philosophes, historiens, sociologues, grands témoins répondent aux questions suivantes. Comment l'épidémie redéfinit-elle nos vies ? Comment peut-elle modifier notre rapport à notre corps, au corps des autres ? Qu'est-ce que l'ennui ? Est-ce que c'est un mal salutaire ? Pour ce troisième épisode de cette bulle philo, on parle de liberté. Quelle est notre liberté à l'ère du coronavirus ? Pour y répondre, Peggy Havé, agrégée et docteur en philosophie, chercheuse, créatrice du site internet Simone et les philosophes. Cette interview a été menée par Laure Cometti, journaliste à 20 minutes. Première question de ce podcast, à propos du confinement décrété mi-mars par le gouvernement presque du jour au lendemain. Il a plutôt été bien accepté. Est-ce que ça veut dire qu'au nom de la santé, notre société est prête à consentir à la perte de ses libertés ?
Pour notre santé, on est prêt à respecter des mesures qui nous immobilisent et qui nous enferment. Enfin voilà, parce qu'on a compris que l'enjeu était grave. On était, je pense, dans une situation d'urgence où le confinement est apparu comme la seule solution envisageable, ce qui est questionnable en soi. On l'a accepté parce qu'on était au pied du mur. Mais on a très vite aussi mis en question le fait que ce confinement ait été la seule solution envisageable pour limiter le taux de mortalité, tout simplement, de cette pandémie.
Pendant ce confinement, on a perdu des libertés qu'on qualifie de fondamentales. La liberté de se déplacer, de se réunir, de manifester par exemple. Il y en a d'autres qu'on a conservées. Enfin, est-ce que ce sont vraiment des libertés ce qu'on a conservé ? Le droit à la santé, le droit au travail, le droit à avoir un chez-soi pour ceux qui en ont la chance. Est-ce que vous feriez cette comparaison-là ?
C'est vrai qu'on a tendance à penser les choses de manière disjonctive. Donc, on va se dire ou bien on est libre et donc dans ce cas-là, voilà, on a une liberté de mouvement sans limite. Ou bien on est confiné et on opte pour la santé et la sécurité avant tout. Alors qu'en réalité, je pense que le danger consiste plutôt à se dire qu'il faut choisir entre les deux et se dire qu'on peut se retrouver dans des situations où on va sans problème sacrifier les libertés au nom de la sécurité. Ce que je veux dire, c'est que il y a des sécurités qui sont constitutives de la liberté. Pouvoir se déplacer sans crainte, pouvoir agir et penser sans redouter une sanction, c'est une forme de sécurité essentielle à la liberté. Par contre, si on se dit, voilà, au nom de la sécurité, on doit pouvoir sacrifier la liberté de penser, de s'exprimer, d'agir, etc., au nom de la sécurité visée pour elle-même, alors là, on est dans une politique restrictive et liberticide claire. Ce qui est compliqué, c'est que dans un contexte de panique, on ne voit plus que la recherche de la sécurité. Et qu'on ne cherche plus à voir comment cette sécurité est incompatible avec notre liberté et se dire plutôt, ben, même s'il y a un contexte de panique, il faut faire preuve de discernement.
Garder une forme de vigilance, même confinée.
C'est ça. Et donc se dire, ben oui, quelle est la sécurité qui est nécessaire à ma liberté, mais quelle liberté je sacrifie ?
au nom de la sécurité sanitaire, est-ce qu'on peut craindre que l'État aille parfois trop loin? Il y a la question du fichage des personnes contaminées, de leurs contacts. Il y a tout un débat autour de l'application Stop Covid. Est-ce que finalement, cette sécurité de la santé qui est, on s'en rend compte d'autant plus aujourd'hui, nécessaire, qu'on veut bien déléguer en partie à l'État, mais est-ce qu'il faut aussi lui poser des limites?
Je pense que oui. Après, ce qu'il faut, c'est que les instances qui sont... on a des institutions, on a des organismes qui sont là pour rendre des avis et évaluer justement le caractère liberticide de la gestion des données de santé, etc. Encore faut-il s'assurer qu'elles soient écoutées, ces instances. Et ça me paraît évident qu'il faut poser des limites. Mais là encore, de quelle sécurité je jouis en tant que citoyen, citoyenne, lorsque je suis dépossédée de données qui ne concernent que moi? Est-ce que c'est encore de la sécurité si je sais que ces données peuvent être utilisées contre moi? Enfin, dans ce qu'on appelle la sécurité aujourd'hui, en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne nous mettent pas en sécurité et qui nous font peur. Donc, une sécurité qui soit réellement sécurisante, c'est-à-dire qui me respecte en tant qu'être humain, est une sécurité qui est la condition de ma liberté et pas le contraire. Pas une liberté sacrifiée comme condition de la sécurité. Donc, voilà, il y a peut-être effectivement des choses qu'on peut mettre en place pour nous garantir, augmenter, favoriser la santé, mais ça ne doit pas être une finalité en elle-même. C'est ce que disait Rousseau, alors il ne parlait pas de santé, mais il parlait de tranquillité. On vit tranquille aussi dans les cachots, mais est-ce à dire qu'on s'y trouve bien? On ne peut pas choisir en tant que citoyen de renoncer à notre liberté juste pour être en bonne santé et donc être à l'abri chez soi, enfermé, ça c'est pas humain. Hein. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Bon, être en bonne santé, si ça justifie que je sacrifie toutes mes libertés, c'est pas vivable.
Oui, ce serait une vie en bonne santé, mais probablement un peu triste, un peu ennuyante.
Ah oui, oui, plus qu'ennuyante. Enfin, ce serait, on deviendrait des automates. Si la santé a un intérêt, évidemment, c'est pour pouvoir vivre pleinement, penser pleinement, agir pleinement et être présent dans l'espace politique aussi, dans la société. C'est pas pour vivre reclus en se taisant et en étant réduit à des données qui vont déterminer mon pouvoir d'action. C'est ça qui est évidemment problématique.
Depuis le 11 mai, il y a des choses qu'on a à nouveau le droit de faire, sortir de chez soi sans forcément avoir une attestation ou un motif. Mais reste tout de même un certain cadre, ce fameux rayon de 100 km, il y a également beaucoup de lieux publics qui restent fermés. Est-ce que finalement, une liberté finalement avec des contraintes ou une liberté un peu grignotée, est-ce que c'est encore une liberté?
Oui, ça c'est compliqué. Bon, de toute façon, on ne peut pas faire sans contraintes, mais il y a une différence entre vivre avec des contraintes. Ça, on ne peut pas vivre sans contraintes totales. On a forcément des contraintes naturelles, etc. Donc, on ne peut pas s'émanciper de la nécessité. Par contre, ce qui, à mon avis, est problématique là, c'est le sentiment d'arbitraire, qui n'est pas qu'un sentiment. C'est-à-dire, on peut accepter certaines nécessités, c'est évident. Mais ce qui nous inquiète dans cette crise, je pense, à juste titre, c'est le sentiment que on est dépossédé d'un certain nombre de choses qui nous sont imposées et on ne sait pas forcément pourquoi. Il y a vraiment un arbitraire très fort qui inquiète, à mon avis, les gens. Des contradictions même, si on regarde vraiment depuis début mars jusqu'à maintenant, les contradictions successives dans les discours, dans les paroles politiques, qui sont les paroles qui donnent le contexte de sens des mesures qui sont prises. Ce sentiment d'arbitraire nous donne de toute façon l'impression que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui est en sursis. Et on ne sait pas pourquoi ça va être 100 km et pas 150. On ne sait pas pourquoi certains lieux sont inaccessibles et pourquoi pas d'autres. Pourquoi on a pu aller voter alors qu'on ne pouvait pas aller au jardin public. Enfin, il y a des choses qui peuvent quand même, à juste titre, nous paraître irrationnelles, donc arbitraires, et on doit les accepter. Et ça, c'est une forme d'insécurité, pour le coup. Il faut se le rappeler, à mon avis, pour ne pas se dire « Ah bon, bah d'accord, si je m'y soumets sans rien dire, c'est parce que c'est au nom de ma santé. » Ça n'est pas au nom de la santé. C'est parce que, voilà, on a un pouvoir, enfin, on est soumis à un pouvoir Et que ce pouvoir a une amplitude, voilà, il exécute parfois des décisions qui sont arbitraires. Et ça, c'est une forme d'insécurité pour les citoyens, d'être assujettis à une forme d'arbitraire. Donc, à juste titre, on a raison de les questionner. Il faudrait des espaces, justement, de discussion où l'on peut parler de cela pour récupérer un pouvoir d'existence sociale et politique en tant que citoyen. C'est ça la principale menace, c'est de se désolidariser, c'est-à-dire comme on perd les lieux de rencontre qui sont, voilà, les cafés, les lieux culturels sont des lieux normalement où justement on discute beaucoup de la société, de l'avenir, où on fait société. Et le fait que ces lieux-là soient fermés, ça veut dire qu'il faut inventer des manières de continuer à échanger, à faire société et à faire culture ensemble autrement.
Et ce sentiment d'insécurité, d'arbitraire que vous décrivez, c'est ça qui explique peut-être le sentiment, en tout cas, que moi j'ai eu d'une sorte de continuité, même après le 11 mai, où j'étais un peu dépitée par ces 100 km qui m'étaient certes offerts par le gouvernement, mais qui me semblaient une nouvelle prison.
Ben oui, je comprends. Oui, pourquoi 100 km ? Qu'il y ait des choses qui soient nécessaires n'est pas contraire à la liberté, mais qu'il y ait des choses qui puissent comme ça être tranchées arbitrairement juste parce que quelqu'un l'a décidé et qu'on n'ait pas le sentiment que ça soit forcément nécessaire. Pourquoi les écoles rouvrent ? Pourquoi certaines écoles pas d'autres ? Pourquoi certains niveaux pas d'autres ? Enfin, il y a vraiment une série en cascade de choses qui nous sont imposées de manière arbitraire qui créent un contexte auquel, à mon avis, il faut vraiment être vigilant, qu'il faut questionner, qu'il faut penser, et du coup, il faut recréer des espaces où on peut en parler.
Oui, parce qu'il y a nos libertés en tant qu'individu, mais ça peut être aussi un combat collectif, la liberté.
Oui.
Un combat de société.
Ah oui, je pense même là vraiment que la liberté de l'individu, elle n'est pas possible sans la liberté collective. Un individu qui serait libre et que les autres ne le seraient pas, c'est un individu qui a des privilèges. Dans ce cas-là, ça n'est pas une liberté au sens fondamental d'un droit que tout être humain a. Et ça, c'est ce qu'on a vu aussi dans cette crise. Hein. On a vu que des libertés n'étaient que des privilèges. Et ça n'est pas un projet de société démocratique.
Si cet été, c'est aussi le moment d'une liberté retrouvée pour se rassembler, ce sera peut-être aussi l'occasion justement d'avoir des échanges collectifs sur ces questions de liberté et sur l'après.
J'espère. Je pense que c'est vraiment important de ne pas sortir de là en se jetant tête baissée dans une nouvelle distraction. Que les libertés retrouvées nous permettent surtout de discuter des libertés que tout le monde n'a pas retrouvées et qui sont malgré tout en sursis. Parce que voilà, on a quand même pu constater qu'on pouvait perdre toutes ces libertés très facilement et que si ça se reproduit, comment on peut s'adapter à ce genre de crise avec le moins de sacrifices possible. Peut-être même chercher à gagner des libertés.
Est-ce possible ?
J'espère. Si on prend en compte les plus vulnérables dans notre société, on gagnera des libertés collectivement. Là encore, les libertés qui sont des privilèges ne sont pas des libertés. Donc, si on accepte de dire que ce sont des privilèges et qu'on discute avec, qu'on fasse société, disons, on ne veut plus que ça soit des privilèges, on veut que ça soit des libertés fondamentales pour tout le monde. Alors là, on est sur une discussion qui est ce que Hannah Arendt définissait comme une discussion politique, où la liberté n'est pas mon pouvoir d'agir à moi toute seule, mais il est dans le pouvoir d'agir que je mets en place avec les autres.
En tant que philosophe, à quel moment vous êtes-vous senti le plus libre pendant ce confinement ?
J'ai pas mal travaillé sur toute l'idée que le sentiment qu'on a de notre liberté est un sentiment qu'on éprouve très fortement dans les moments de libération, c'est-à-dire dans les moments de contraste. Mais que ce sentiment n'est pas toujours fiable, parce qu'on a des libertés qui sont fondamentales et qu'on ne sent pas toujours. Alors le sentiment de liberté que j'ai eu, peut-être le plus fort, c'est quand j'ai retrouvé les arbres qui ne sont pas très loin de chez moi et que je n'ai pas pu voir pendant tout le confinement. Le fait de retrouver les amis très proches et d'avoir un rythme un peu plus... Alors, je ne vais pas dire plus doux, parce qu'en fait, cumuler enfant travail, c'est un peu, mais quand même un rythme moins assujetti aux horaires standards. Alors ça, c'est une forme de liberté de sortir un peu du standard. Ça donne un plaisir libérateur, je trouve, de voir qu'on peut vivre autrement.
Merci à la philosophe Peggy Ave, interview Laure Cometti, réalisation à Laetitia Béraud. Quant à Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast d'actualité de 20 minutes sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez aussi nous évaluer et nous envoyer des commentaires. On se retrouve très vite, portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.